Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, on s'intéresse au docteur Maboul de l'histoire. La France avait Petiot, mais l'Angleterre n'était pas en reste avec William Palmer.
Dans toute l'histoire de notre pauvre humanité, nul récit de crime n'est plus palpitant, ni même plus éloquent dans ses avertissements à ceux qui se lancent dans une vie de passion débridée que celui de William Palmer. C'est dans ces termes qu'en 1888, le Sheffield Independent, un canard anglais, décrivait l'affaire criminelle que je vous raconte aujourd'hui. Une affaire de docteur, de jeu d'argent, de fraude et de meurtre qui a défrayé la chronique et passionné les foules dans l'Angleterre victorienne de la moitié du 19e siècle, l'affaire de l'empoisonneur de Rugeley. L'histoire débute en 1855 dans un petit village près de Stafford, au centre de l'Angleterre. Cette année-là, un jeune chirurgien, le docteur William Palmer, est accusé d'avoir empoisonné à la strychnine l'un de ses plus proches amis, un certain John Parsons Cook. L'affaire prend rapidement une ampleur considérable. Non seulement l'accusé est médecin, profession respectable s'il en est, mais il s'avère aussi qu'il pourrait être responsable de plusieurs autres meurtres. Pour comprendre, revenons 8 ans plus tôt en 1847. Le jeune William Palmer, alors tout juste 23 ans, installe son cabinet de chirurgie à Rugeley. Au départ, l'affaire marche bien. Mais ça ne dure pas, car le jeune homme est accro aux jeux d'argent et tout particulièrement aux courses de chevaux. Cette obsession lui coûte cher, à tel point qu'il en délaisse les dépenses nécessaires au bon fonctionnement de son cabinet. Très vite, la situation confortable que lui permet son métier ne suffit plus à couvrir son train de vie dispendieux. Il emprunte à des taux faramineux et se retrouve criblé de dettes. C'est dans ce contexte critique que va se dérouler cette affaire d'empoisonnement qui va passionner l'Angleterre, menée à ce que les journaux de l'époque surnommeront le procès du siècle et qui débouchera pour le docteur Palmer vers une condamnation à la potence en 1846. Voici les faits. Quelques mois plus tôt, le 14 novembre 1845, un ami proche de William Palmer, John Cook, tombe subitement malade.
C'est le jour de votre anniversaire, on le signale, Stéphane.
Pas en 1845.
Non, mais oh, je ne me permettrai pas, Stéphane, enfin. Oui, je note juste une coïncidence étonnante,
oui,
quand
c'est
même,
fou,
14
hein.
novembre.
Oui, je remercie. Ce jour-là, il a passé la journée à fêter en compagnie de Palmer ses gains de la veille. Lui aussi est accro aux courses et il vient de gagner une grosse somme d'argent, 3000 livres sterling. Il meurt quelques jours plus tard, après que son état soit à plusieurs reprises aggravé. À chaque fois, semble-t-il, après la visite de son camarade médecin.
Bizarre,
non, oui. Très vite donc, les soupçons se portent sur Palmer. Il faut dire que le comportement de l'homme est suspect. D'abord, c'est lui qui récupère les gains de son ami pendant sa convalescence. Il prétend également, après le décès de Cook, que ce dernier lui devait de l'argent, mais refuse de produire un livre de compte qui le prouve. Plus accablant encore, lors de l'autopsie, il apparaît, selon les personnes présentes, qu'il tente de perturber le bon déroulement de l'opération. Pire, une lettre est interceptée dans laquelle il demande au légiste de conclure à une mort de cause naturelle. Le tout accompagné d'un pot de vin, quand même. Mais ce qui fera définitivement pencher la balance en sa défaveur, c'est l'achat, juste avant le décès de Cook, de strychnine. À forte dose, c'est un poison très violent, dont les effets ressemblent étrangement aux symptômes exhibés par la victime avant son décès, des spasmes musculaires, des convulsions, une forme d'asphyxie. C'est cette thèse qui sera retenue par l'un des légistes en charge du dossier, un pionnier de la toxicologie en Angleterre, un certain Alfred Swain Taylor. William Palmer est donc arrêté. On accuse Dr Palmer de meurtre et de fraude et très vite l'attention se porte sur d'autres cas suspects dans son entourage. Pour commencer, 4 de ses enfants sont morts juste après leur naissance. Tous ont été victimes d'étranges convulsions. Sa belle-mère, sa femme et son frère sont également décédés. Et tous, enfants ou adultes, sont morts entre 1849 et 1855, une période où, on le sait, ils faisaient déjà face à de très graves difficultés financières. Toutes ces disparitions ont ou auraient pu lui rapporter de l'argent. À la mort de sa femme, par exemple, l'assurance lui verse la modique somme de 13 000 livres. Son frère aussi avait une assurance vie. Quant au nouveau-né, leur mort lui évitait certainement des dépenses. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les apparences ne jouent pas à la faveur du docteur Palmer. L'opinion publique est faite, et celle de la justice aussi. L'empoisonneur Palmer, comme on le surnomme, est coupable. Il ne faudra d'ailleurs qu'une heure de délibération aux jurés pour en décider unanimement. Jamais meurtre odieux n'avait été renvoyé de manière aussi probante à son perpétreur, comme le souligne un journaliste de l'époque. Cette citation n'est pas choisie par hasard. L'utilisation du terme « probant » a son importance. Les preuves contre le docteur Palmer étaient-elles véritablement probantes ? Revenons-en aux fameuses conclusions de l'expert en toxicologie, ce monsieur Taylor qui a analysé le contenu de l'estomac et des viscères de la victime. Cette affaire est l'une des toutes premières à utiliser la chimie médico-légale à des fins de condamnation. C'est dans le but de confondre Palmer que cet éminent spécialiste est consulté. Et c'est son rapport qui va véritablement sceller le sort de Palmer. Seulement voilà. Ce rapport ne s'appuie pas sur l'analyse chimique des viscères. Non, celle-ci n'a pas été concluante. Les conclusions se basent uniquement sur les spasmes dont a été victime Cook, juste avant sa mort, des spasmes qui, selon l'expert, n'auraient pu être causés que par le tétanos ou la strychnine. Le tétanos ayant été écarté, il ne restait selon lui qu'une option, l'empoisonnement à la strychnine. Le doute est donc permis dans cette histoire, surtout que le docteur Palmer, dont la condamnation à mort a été prononcée en 1856, n'a jamais avoué le meurtre. Quant aux autres crime dont il est soupçonné, là encore, aucune preuve n'a pu être apportée. Et si l'affaire de l'empoisonneur de Rudgley était une erreur judiciaire ? Aujourd'hui encore, le mystère Palmer reste entier.
Europe 1, historiquement vôtre.